tard. Vous savez que je viens du fin fond de Toulouse, alors j'ai quelques excuses, quoi. Voilà. Non, mais je suis heureux de, une fois de plus, de me retrouver ici, chaque fois pour pouvoir, c'est vrai, avoir cette communion fraternelle et de pouvoir, c'est vrai, apporter surtout un enseignement biblique. Je me réjouis chaque fois parce que je crois que les sujets qui sont choisis par tel ou tel comité, peu importe, je crois que c'est des sujets d'actualité, pertinents, qui nous dérangent. Moi, ça m'a secoué un peu, ce sujet sur la jeunesse. Alors, ce que je vais partager, peut-être que je vais paraître comme notre frère Baptiste en train de vous apporter, et c'est très très bien ce que tu as apporté sur certaines solutions, mais je voudrais, comme certains le font, je vais le faire soulever, et puis chacun regardera un peu ce qui se passe, en tout cas pour moi, dans ce milieu de jeunes, dans nos églises évangéliques baptistes. Je ne sais pas pourquoi, en méditant ces derniers jours, j'ai été conduit vers trois histoires dans la Bible de trois jeunes hommes. Et je voudrais, on les connaît ces histoires, mais je voudrais au travers de ces trois histoires très très connues, je voudrais vous dire, voilà la situation de beaucoup d'églises, et en tout cas pour la nôtre. On n'a pas beaucoup de jeunes en ce moment, on a une douzaine, pas plus. On a plutôt peut-être des couples en ce moment, etc. Et les trois histoires, vous les connaissez. La première, c'est Matthieu au chapitre 19. Alors peut-être pour avancer, je vais me permettre de ne pas la lire en entier, mais de lire le principal, ce qui concerne notre sujet, sur atteindre les jeunes, et puis après les accompagner, donc au salut. Voilà, dans les nombreuses rencontres que notre Seigneur Jésus-Christ a eues, un jour il a rencontré un jeune homme riche. Et vous connaissez cette histoire. C'est quelqu'un, dès le départ dans cette histoire, il ressent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et je crois que ça, c'est très important si on veut s'approcher des jeunes, les accompagner, que le Seigneur nous dirige pour voir exactement qu'est-ce qu'il manque chez les jeunes. Mais aussi, et là c'est vraiment cette histoire, c'est le jeune lui-même qui remarque dans sa vie il y a quelque chose qui lui manque. Regardez ce qui est dit au verset 16. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et voilà ce qui lui manquait. Ben, il lui répondit, « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, alors observe les commandements. Lesquels, lui dit-il ? » Ben, Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et... Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme, donc soulignez, c'est vraiment un jeune homme, lui dit, j'ai observé toutes ces choses que tu mentionnes donc ici et qui me manquent encore. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et puis tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et alors c'est là où, évidemment, ça nous attriste à tous. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus lui dit, et dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis, etc., etc. Et je crois qu'il faut s'arrêter juste sur quelques points. Il te manque quelque chose. Et j'ai constaté au travers des années dans notre église, peut-être vous aussi, que vous avez des jeunes hommes, des jeunes filles. Jeune homme, ça c'est moi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu mon témoignage. Il se résume à pour le moment en quelques lignes, je pourrais développer. Mais le Seigneur a permis que je sois dans une famille qui connaissait le Seigneur. Mes parents ont connu le Seigneur dans une église évangélique baptiste à côté de Barcelone, et j'en dirai pas plus aujourd'hui. Et puis ils se sont convertis, et puis après vous le devinez la suite, ils ont été les premiers à m'apporter l'évangile, à l'apporter à mon frère, et tous les deux nous avons connu le Seigneur. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que je ne l'ai pas vraiment entièrement compris l'évangile tout de suite. C'est vraiment à l'âge de 17 ans où il y a eu en moi l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché, qui m'a conduit à une repentance et une véritable conversion. 17 ans. J'étais un peu comme ce jeune homme. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Oui, il y avait de la joie pour moi d'aller au culte, d'aller dans les classes bibliques, de suivre mes parents tout simplement. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Exactement, je me retrouve dans... Et je crois qu'un certain nombre de nos jeunes sont dans cette situation. J'ai été troublé il y a à peine 2 mois quand le responsable de notre groupe de jeunes, il s'appelle Timothée, par coïncidence, vous voyez ce que je veux dire, le Timothée dans la Bible, avec sa jeune épouse Rebecca, bref, et il est venu à la fin du culte, il m'a dit: Samuel, je voudrais que tu ajoutes un sujet de prière sur la liste des prières. Il faut prier pour nos jeunes parce que certains n'ont pas compris ce que c'est que vraiment la conversion. Ah bon? Pourtant, je vois exactement ces 12 jeunes, certains fréquentent l'église depuis longtemps. C'est ça le point. Et je crois que si nous voulons être honnêtes, on se retrouve tous dans cette situation dans nos églises. Il y a ce genre de jeune qui est tombé dans un rituel, dans une tradition, et puis il n'y a pas eu ce changement total. Et alors à un certain moment, ça devient grave. Parce qu'à un certain moment, comme il n'y a pas cet enracinement, comme dit la parole de Dieu, ben à un certain moment, voilà que ça flanche et la personne revient en arrière. Alors en parlant, revenir en arrière, deuxième histoire qui est très très connue, alors peut-être encore plus que celle-là. Je vous demanderai de prendre Luc au chapitre 15. Voilà la deuxième histoire concernant un jeune. Là aussi, c'est, je crois, certains jeunes dans nos églises dans cette position. Je vais m'expliquer. Et c'est évidemment l'histoire du fils prodigue. Mais on a oublié que c'est le plus jeune. Regardez le verset 12. Vous y êtes dans Luc 15, verset 12. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune homme ou le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et puis il commença à trouver, il se trouvait dans le besoin, il alla, etc., etc. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré, cette situation, pour ce jeune homme. Mais ça donne l'impression que ça a duré quand même un certain temps, comme on dit. Et puis à un certain moment, on voit l'Esprit de Dieu qui le touche. Il a vraiment touché, comme on dit, le fond. Le jeune, il est parti de la maison. Alors je sais qu'il y a des quantités de leçons spirituelles au travers de cette parabole. Chacun a sans doute prêché 1, 2, 3 fois sur cette parabole, et chaque fois il y a une leçon spirituelle différente. Bien, mais on va en prendre une autre aujourd'hui, celle de ce jeune qui connaît le Seigneur, qui marche avec lui, qui fréquente l'église, qui est droit. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tout s'écroule. Et puis, son père, parce qu'il l'aime, alors il le laisse partir. Il pleure, son père. Tous les jours, il attend son retour, mais il s'en va. Qui de nous, dans nos églises, n'a pas connu cette situation? Moi, je peux vous dire, je l'ai connu deux ou trois fois. Il part. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prie en premier, évidemment. On essaye tout. On essaye de le ramener par une invitation. Viens manger. Viens, on aura un moment de prière ensemble, etc. Tout. On essaye tout. Et puis, Dieu veille, comme ici. Et l'Esprit de Dieu agit. Et à un certain moment, cette personne se repent. Il se trouve sale, dégoûtant. Il dit, non, c'est pas possible. Je vais revenir, mais non, je vais lui dire que je suis même pas digne d'être appelé son fils. C'est pas possible. Et puis c'est là où il y a l'amour du Père. Et c'est là où ça nous touche de près à nous, serviteurs, servantes du Seigneur. Nous qui sommes évangélistes, nous qui sommes pasteurs, missionnaires, est-ce que nous avons cet amour d'accueillir quiconque? Si on lisait, vous le savez, que certains versets, je pense à l'Épître aux Romains, chapitre 12, n'est-ce pas, d'accueillir quiconque, d'accueillir celui qui est faible dans la foi. Ce jeune homme est devenu tout d'un coup un faible dans la foi. Il a lâché. Et le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a accueilli, n'est-ce pas? Et je voudrais qu'on y pense à cette deuxième histoire, parce que il y a ce genre de jeunes aussi dans nos églises. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir un jeune dans tous les états qu'il est? Et puis la troisième histoire. Alors là, il faut aller dans l'Ancien Testament. Et là, c'est vraiment, je crois, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, cette histoire, parce que vous la connaissez, mais j'ai l'impression que c'est le jeune qui n'a jamais eu connaissance de la Bible, jamais eu connaissance de la bonne nouvelle, jamais. Et alors, évidemment, il a eu une vie, comme on dit, de patachon, n'est-ce pas? Les 400 coups, il a tout fait. Il s'est réjoui. Eh bien oui, mais ce n'était pas vraiment le fruit, Galates chapitre 5, de la joie. C'est une joie tout à fait éphémère, fabriquée, trafiquée hein, dans ce monde. J'espère que vous voyez déjà de quel jeune je parle. Prenez Ecclésiaste au chapitre 12. Voilà la troisième histoire. Alors je vais être court après, mais je vais essayer de réunir ces trois histoires de jeunes hommes ensemble. Ecclésiaste chapitre 12. Bien connu l'histoire. Verset 1. Jeune homme, de nouveau, jeune homme, réjouis-toi. Alors chaque fois, excusez-moi pour vous, mes sœurs, on peut mettre jeune fille, hein, évidemment, vous l'avez compris. Jeune fille, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vas-y, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Vas-y, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse est là et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends plus plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, etc., etc. Et là, j'ai l'impression que c'est un jeune qui n'a jamais, cet exemple-là, bien sûr, qui n'a jamais connu Dieu, évidemment qui n'a jamais connu Jésus-Christ, qui n'a jamais connu la Bible, la bonne nouvelle, l'Évangile. Et ça, c'est le troisième cas dans nos églises. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce genre de personnes? Est-ce que je suis prêt? Oui, non, c'est ça. Ou je vois que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais séparé du mal, jamais. Et alors c'est là où je vais vous donner deux versets bien connus où il faut qu'on trouve un équilibre entre ces deux versets, entre ces deux situations. D'une part, comme tu l'as relevé, Baptiste, dans les différents versets, d'une part, nous avons ce 1 Corinthiens 9, 22 qui dit « Je dois me faire tous à tous, faible avec le faible, juif avec le juif, grec avec le grec, se faire tous à tous. » Oui, mais je vois déjà réagir. Oui, mais jusqu'à quelle limite je dois me faire tous à tous? Est-ce que je dois tout faire, tout pratiquer, ce que les autres pratiquent, etc.? Et puis l'autre verset, voilà où je vous demanderai de m'aider. de trouver un équilibre. L'autre verset, alors c'est ce 2 Corinthiens 6, bien connu, 2 Corinthiens 6, verset 15. Je dis verset 15, mais c'est à partir des versets 15. C'était un passage bien connu où il est dit « Séparez-vous », où il est dit « Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle est la part du fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car ben, nous sommes le temple de Dieu, non ? Du temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et je continue le passage. « J'habiterai et je marcherai donc au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront leur peuple. » Oui, mais voilà. Avant qu'il soit mon Dieu, avant qu'il soit mon Seigneur, avant qu'il soit en moi, alors il est dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et puis, moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils, des filles, oui, pardon, dit le Seigneur Tout-Puissant. Où est l'équilibre ? Et alors c'est là le danger. Ça m'est arrivé, vous comprenez bien que je ne suis plus un jeune homme. À vous de deviner quel âge j'ai. Où, voilà l'expérience, où c'est que je dois fixer ma limite. Je dois me faire tous à tous. Et puis de l'autre côté, je pense immédiatement à ce verset, séparez-vous, ne touchez pas. Le verset d'un côté qui dit, accueillez-vous les uns les autres, accueillez quiconque. Et de l'autre dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie, fuyez les passions de la jeunesse. Ah ouais, voilà. Alors, fuir et de l'autre côté, accueillir. Où est la limite ? Vous savez, je crois que c'est très très difficile dans la société que nous vivons et dans l'époque que nous vivons. Vous savez que de plus en plus, on le ressent, c'est prophétique, eschatologique. Nous voyons que l'Empire romain revient de plus en plus. Et vous savez que une des choses, un des principes de l'Empire romain, c'était du pain et les jeux. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est ça. Ce que je puisse me nourrir et puis surtout que je puisse avoir des loisirs, que je puisse aller où je veux, que je puisse faire ce que je veux, que tout puisse me divertir, etc., etc. L'Empire romain qui est là. Et alors c'est pour cela que d'un côté, là aussi voilà la difficulté, d'un côté on sait que les prophéties doivent s'accomplir, c'est inévitable, et de l'autre côté, le Seigneur dit fuyez l'impudicité, fuyez les passions. Dieu dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, etc., etc. Et alors dans nos milieux évidemment de nos jeunes, certains ont des difficultés, peut-être nous-mêmes, moi-même, à avoir cet équilibre sur il faut que de plus en plus la sanctification avance en moi et j'ai la difficulté qui est là. Alors je voudrais terminer peut-être encore avec quelques exemples. Donc excusez-moi de ces trois exemples sur des jeunes hommes, Matthieu 19, Ecclésiaste au chapitre 12 et puis ce passage de Luc au chapitre 15 et au verset 12. Pour ce qui est peut-être des expériences, on va dire très très personnelles, hein, très personnelles. Oui, je crois que pour les jeunes, il faut quelques jeux, mais attention, vous m'avez compris déjà. Je crois qu'il faut du sport, je crois qu'il en faut quand même. Hein. Il faut des moments de communion avec les jeunes, des repas, etc. Attention à la musique, parce que ça c'est un des points très très délicats au sein de nos églises, la musique. J'ai pensé à autre chose, et puis les chants, les cantiques, ah là là. Voilà, alors où est la séparation l'un de l'autre ? J'ai oublié de vous dire, et peut-être c'est l'amour de la femme, le titre donc « Atteindre et accompagner », j'ai essayé de retrouver un peu la définition de « atteindre ». Atteindre, c'est toucher, c'est parvenir, c'est une progression à atteindre. C'est pas quelque chose de d'immédiat. Et je crois que dans le milieu de jeunes, ça doit être souvent ça. De les amener petit à petit. Sinon, à un certain moment, ça craque, n'est-ce pas ? Et on a des difficultés, comme on dit, à recoller les morceaux pour que de nouveau, ils soient là. Atteindre les jeunes. Le deuxième titre qui a été choisi, donc, c'est « Et puis les accompagner ». Et accompagner, donc, c'est dans le but, j'ai noté ici, de les amener à une maturité spirituelle, à les amener à une fermeté dans le Seigneur. D'abord, les enraciner, et puis après, les amener à cette maturité spirituelle. Mais voilà le danger aussi d'en accompagner. Il ne faut pas que ça devienne constamment une assistance permanente. Et ça, je me suis aperçu dans les quelques jeunes que nous avons, qu'ils le ressentent tout de suite quand on les assiste continuellement. Un peu de liberté, un peu, n'est-ce pas, pas coincé, comme on dit des fois, dans un costume. Vous avez tous eu des costumes où on est un peu serré, et puis d'autres on se sent à l'aise, et sans arrêt on veut le remettre parce qu'on se sent bien. Mais parmi les jeunes, c'est pareil. Je crois que, et là c'est la difficulté. Où est le véritable habit, puisque j'ai pris l'exemple de l'habit, quel est le véritable habit pour nos jeunes, pour qu'ils se sentent bien, confortables, mais en même temps qu'ils ne sentent pas qu'on est en train de sans arrêt les assister. C'est très très difficile. Et je crois que le Seigneur bénisse notre frère qui va de nouveau exposer après moi. Pour moi, c'est très très difficile. Je crois que ce n'est pas quelque chose de définitif et de quelque chose, donc, je veux dire, de définitif. J'allais dire quelque chose que, ça y est, c'est là, la formule est là, je l'ai, la formule, et c'est fini. Non, sans arrêt, pourquoi ? Mais parce que les jeunes sont différents. C'est comme les jeunes, c'est des personnes humaines, hein, de chair. Et chaque personne de chair est différente l'un de l'autre. Et les jeunes, c'est pareil. Et donc, il faut qu'on apprenne avec le Seigneur. Ça va nous prendre du temps. Mais il faut qu'on fasse connaissance un par un des jeunes, qu'on sache arriver à un certain moment, jusqu'à une certaine limite pour voir. Je termine par ce verset. Ce verset que nous connaissons, et je crois que c'est sans doute le programme que nous avons pour tous les jeunes, dans ce psaume le plus long des psaumes, le 119, vous le connaissez tous. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour le vieillard, il y en a pour l'ancien, il y en a pour le jeune, l'homme, la jeune fille, il y en a pour quiconque. Et alors vous connaissez ce verset, regardez. C'est le verset 9, psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après la parole. Deuxièmement, je te cherche de tout mon cœur. Trois, je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Alors je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est là où c'est un des enseignements, je veux dire, en premier, qu'on doit apporter aux jeunes, de lire la Bible, de la méditer, de leur apporter, bien sûr, sans arrêt, la parole, et que cette parole puisse être là, leur dire, écoute, dans les moments de difficulté, reviens à la parole. Le Seigneur te montrera comment tu dois faire, comment tu dois te comporter. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, j'allais soulever, mais finalement, je ne sais pas si j'ai apporté quelques solutions, parce que c'est très, en tout cas pour moi, très très difficile, ce ministère parmi les jeunes. Amen. Merci.